Habemus Papam.
In Springfield, they're eating the dogs.
Por primera vez me convertiré en la primera mujer presidenta de México.
Ici, le monde.
Ici le monde, c'est un voyage en trois escales de ce qui fait l'actualité à l'étranger. Cap ce matin sur le Japon, en cette journée internationale des femmes. Le gouvernement prend une décision historique. Bientôt, la sécurité sociale remboursera les frais liés à la grossesse et à l'accouchement. Objectif, encourager les femmes à avoir plus d'enfants et lutter contre la dénatalité dans le pays. On en parle avec notre correspondant sur place, Bernard Delattre. Bernard, pourquoi ce n'était pas remboursé jusqu'ici ?
Oui, mais c'est dû au fait que le ministère de la Santé part du principe que la grossesse n'est pas une maladie. Donc ici, seules les césariennes sont remboursées, à concurrence de 70%, parce qu'elles sont considérées comme des urgences médicales. Alors, pour compenser et ne tout de même pas trop dissuader à la parentalité, le montant de la prime de naissance versée après l'accouchement est nettement supérieur à ce qui se fait dans les autres pays. 500 000 yens, 2800 euros environ. Problème, dans les grandes villes où résident 60% des Japonais et où la vie coûte plus cher, un accouchement revient à 3 500 euros. Donc ce changement à venir réjouit cette jeune maman d'un garçon de 6 mois et qui veut un deuxième enfant.
On a dû emprunter de l'argent à nos parents avant l'accouchement car nos petits salaires ne nous auraient pas permis de payer la facture de la maternité qui était vraiment chère. Cette réforme sera un immense soulagement pour tous les jeunes couples qui rêvent d'avoir un enfant mais qui, la mort dans l'âme, doivent y renoncer car ils ne gagnent pas assez bien leur vie. Selon moi, si une telle mesure avait été décidée plus tôt, la dénatalité n'aurait pas pris une telle proportion. Donc notre pays se porterait beaucoup mieux.
Est-ce qu'il y a urgence, selon vous ?
Voilà, il y a urgence, puisque année après année et depuis 1975, le nombre de naissances diminue au Japon. Parce que, au-delà des frais d'accouchement, ça coûte cher d'y fonder une famille. 225 euros par mois et par enfant, tout montre les études. Or, les salaires mensuels sont peu élevés au Japon. 300 000 yens bruts en moyenne, soit 1650 euros. Et encore, près d'un Japonais sur deux gagne moins, vu que ici, 40% des salariés n'ont qu'un emploi précaire, c'est statutaire ou irrégulier. Les sondages montrent d'ailleurs que seuls 33% des parents d'un enfant âgé de moins de 6 ans souhaitent en avoir un deuxième. Les autres y renoncent pour une question d'argent.
C'est une question de santé publique ?
C'est ça. Et ça concerne les diagnostics prénataux, à savoir tous ces examens que l'on pratique sur le fœtus pour rechercher d'éventuelles malformations congénitales ou alors des anomalies génétiques comme la mucoviscidose ou la trisomie 21. Eux non plus n'étaient pas remboursés. Et selon cette spécialiste, il était vraiment impératif de changer ça.
Nous constatons depuis plusieurs années qu'un nombre grandissant de futurs parents décident de faire une croix sur ces examens ou de réduire considérablement leur nombre et leur fréquence. Pas de gaieté de cœur, mais pour des raisons financières. Ils jugent ne pas pouvoir se permettre une telle dépense, d'autant que ces diagnostics sont assez coûteux. Mais ils sont absolument essentiels pour assurer une grossesse sereine et anticiper une prise en charge médicale parfaitement adaptée dès la naissance.
Il y a toutefois une exception. La péridurale, elle restera à charge de la patiente.
Parce que le ministère de la Santé juge qu'il s'agit, je cite, d'un soin de confort. Les femmes qui y ont recours doivent et devront donc payer l'addition, soit à plusieurs centaines d'euros. Et puis, en fait, la péridurale a toujours été déconsidérée au Japon, et doublement. D'abord, en vertu de ce qui est une règle sociétale de base dans ce pays, à savoir que chacun avait prié de donner en permanence le maximum de soi. Ici, baisser les bras ou geindre face à l'adversité ne se conçoit pas. Il faut serrer les dents et y faire face avec panache, car on est censé se grandir dans l'épreuve, et ça vaut y compris pour la douleur. Une anesthésie vue comme une sorte de fuite, si vous voulez. Ensuite, ce type d'accouchement est victime d'une antienne dénuée de tout fondement, mais qui se transmet de génération en génération. Elle assure qu'accoucher dans la douleur créerait des liens à venir incomparablement forts entre la mère et son enfant. Plus elle souffre en mettant au monde son bébé, plus elle se rapproche de lui tout au long de sa vie. C'est notamment ce que soutiennent beaucoup de belles-mères et de sages-femmes. Tout cela explique qu'ici, moins de 15% des accouchements se font sous péridurale, contre 60 à 80% en Europe aux États-Unis.
Le ministère de la Santé prévoit de mettre en place cette couverture sociale en 2027. Deuxième escale, la Corse, où des cours un peu particuliers viennent d'apparaître, des cours anti-mafia. Face à la persistance de la criminalité organisée sur l'île de Beauté, le rectorat expérimente ses cours dans les collèges et les lycées pour sensibiliser les jeunes, parfois fascinés par les criminels. Reportage.
On n'est pas en histoire ici, on est vraiment dans une actualité qui est brûlante, qui est immédiate.
Nous sommes au lycée Fesch d'Ajaccio, c'est le premier cours anti-mafia de cette classe de seconde.
Est-ce que vous avez repéré dans le texte des éléments qui permettent de souligner la violence qui traverse la société corse ? Oui.
Le nombre qui augmente d'année en année.
Effectivement, rapporté au nombre d'habitants, nous sommes la région qui a le triste privilège d'avoir le plus grand nombre d'assassinats en Europe. C'est chez nous qu'on tue le plus.
Sébastien Ottavi est professeur d'histoire-géographie. Il s'appuie sur des articles de presse pour lancer la discussion avec ses élèves sur la réalité de la mafia et la représentation qu'ils en ont.
C'est sûr que c'est pas bien en soi, mais quand cette personne est proche de nous, qu'elle peut nous aider à trouver du travail, si imaginons demain je me dispute ou... En fait, la personne nous apporte du bien, elle nous apporte du mal aussi. Il faut juste peser le pour et le contre.
Les élèves ont grandi dans cette actualité violente, constate l'enseignant.
C'est difficile d'ignorer, y compris dans notre lycée de centre-ville, et notamment du fait de l'actualité de ces dernières années et du lieu où un certain nombre d'assassinats se sont déroulés, à quelques centaines de mètres de notre établissement. C'est difficile de se dire que non, les élèves sont sur leur TikTok et pensent à autre chose. Peut-être que 99% du temps, ils sont sur TikTok et pensent à autre chose, mais ils vivent quand même ici. On ne peut pas ignorer ce qui se passe ici.
Des ados confrontés de près ou de loin au phénomène mafieux, mais avec parfois des visions biaisées de la réalité, que j'ai aussi constaté auprès de ces jeunes attablés à la terrasse d'un fast-food.
Les réseaux mafieux, ça a du négatif, mais aussi ils revendiquent leurs identités ici, hein, pour pas que ça finisse comme c'est en train de faire sur le continent. C'est-à-dire ? Bah, sur le continent, maintenant, la sécurité, on en trouve un peu nulle part. Et ici, c'est le contraire. Ouais, c'est sûr que ça met un peu d'ordre. S'ils seraient pas là, je pense qu'à l'heure actuelle, la Corse, ça serait comme la France, niveau sécurité. Et c'est quand même mieux pour la population corse qui souhaite rester tranquille ici.
Et c'est bien pour déconstruire ces images idéalisées du voyou courageux que le rectorat a souhaité mettre en place ses cours et répond ainsi à la demande de longue date des collectifs anti-mafia de Lille.
En communication,
oui,
porte ouverte.
Je vous fais monter. Ah, voilà.
Une très belle vue sur la mer de votre balcon.
Ah oui, là, alors on a à 180 degrés, disons. Et les îles surtout, donc là, vous voyez l'île d'Elbe.
Josette Dalava Santucci fait partie de l'organisation Mafiano Vitae, Mafia non, la vie oui. Elle explique pourquoi le sujet est si difficile à aborder dans les classes.
On sait que c'est une société de proximité.
Donc ça veut dire que des victimes et des enfants de...
Ben, voilà, les victimes mafieux, et voilà, vont se trouver ensemble. Il faut faire très attention, être complètement neutre et laisser les enfants parler.
Si cette médecin de 83 ans s'investit toujours autant contre la mafia, c'est pour que les jeunes générations puissent grandir dans une société corse apaisée.
C'est l'avenir de mes petits-enfants et de tous les petits-enfants de la Corse. S'ils peuvent vivre ici, tant mieux. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne leur dirai pas de rentrer en Corse après leurs études, parce que la situation est encore trop difficile. Mais je module, hein, je pense que l'attachement à la terre, c'est très important. S'ils peuvent travailler sur la terre de nos ancêtres. Moi, c'est mon rêve aussi. Hein. Mais les meilleurs risquent de partir, même s'ils ne trouvent pas le socle de société qu'ils méritent.
Ces cours, inspirés de ce qui se fait en Italie depuis des années, doivent à terme concerner 16 000 élèves corses de la 4e à la terminale.
Un reportage de Noémie Bonin pour France Inter. Dernière étape de notre voyage, le Sénégal, où un projet de durcissement des peines de prison contre l'homosexualité est envisagé. Des peines de prison de 5 à 10 ans. Pour le Premier ministre sénégalais, il faut parler d'actes contre nature lorsqu'on parle d'homosexualité. Le projet entend également punir l'apologie de l'homosexualité. Le Sénégal, pays ouest-africain majoritairement musulman, est depuis plusieurs semaines agité par une série d'arrestations pour homosexualité présumée, dont plusieurs célébrités ont fait les frais. Cela mérite une analyse et on va la faire avec Larissa Kojoué, chercheuse pour Human Rights Watch et spécialiste du Sénégal. Madame Kojoué, on veut pénaliser plus durement l'homosexualité, on veut aussi punir tout soutien à la communauté LGBT.
Oui, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est vraiment silencier toute parole, même qui serait en faveur du respect des droits des personnes LGBT. Et dans l'apologie, on l'a vu ailleurs, hein, c'est un texte vague et qui est sujet à différentes interprétations. Ça veut dire que même les défenseurs des droits humains, des organisations de l'ONU, le PNUD, Amnesty ou Human Rights Watch, pour laquelle je travaille, autant d'organisations qui travaillent sur la santé sexuelle et reproductive et qui appellent au respect de la dignité humaine, notamment au respect de droits à la santé sexuelle et reproductive, pourraient être ciblées, oui.
Comment en est-on arrivé là ?
Bon, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le climat, le contexte global n'est pas très encourageant vis-à-vis du respect des droits humains, notamment des droits des femmes et des droits des minorités. Mais ce qui est propre au Sénégal, on a quand même une montée des mouvements ultra-conservateurs religieux. Et ce sont des personnes qui ont un poids politique très fort dans la vie sénégalaise. On le sent qu'avec cette nouvelle loi, on sent que le gouvernement est en train de céder à une pression très forte qui a toujours été constante et qui n'est pas que vis-à-vis des personnes homosexuelles. Hein. On sent aussi qu'il y aura un recul pour d'autres droits, notamment les droits des femmes, les questions d'accès à l'éducation, les questions d'accès aux services d'avortement, les questions du mariage forcé, par exemple, ou des violences sexistes et sexuelles. On sent moins l'engouement pour ces questions-là en ce moment parce que tout est sur l'homosexualité, mais ça va arriver aussi.
C'est porteur politiquement ?
C'est très porteur et c'est porteur depuis longtemps. Ça l'est pour flatter un certain électorat, pour plus ou moins les rassurer, vu que l'homosexualité est envisagée comme un impérialisme culturel à l'occidental. Donc c'est un projet très moralisateur. C'est porteur pour les populations qui ont le sentiment que voilà, leurs traditions sont respectées. Mais ce n'est pas une raison pour jeter tout un ensemble de populations sous le bus. Il y a un équilibre à avoir, il y a un équilibre à chercher, il y a du courage politique aussi à vouloir protéger les personnes qui traversent déjà des questions, des moments très difficiles. Dans toutes ces arrestations qu'on voit, il y a très peu de preuves qu'il y a vraiment eu des rapports sexuels parce qu'il faut être pris dans l'acte. Aucune de ces personnes n'a été prise en flagrant délit, donc il n'y a que des soupçons. C'est l'identité même qui est condamnée et non pas simplement la pratique.
Comment vit la communauté LGBT au Sénégal aujourd'hui ?
La communauté vit dans la peur. Les médias en ont fait leur bouc émissaire. Donc la communauté vit dans la peur, mais elle réussit à s'organiser. Il y a des organisations qui fonctionnent et en ce moment, un moment très délicat, elles font preuve d'une formidable solidarité. Parce que voilà, il n'y a pas que des personnes qui sont arrêtées, qui sont affectées. Il y a aussi leur famille dans leur communauté. Et voilà, c'est souvent ça part de dénonciation et on ne parle pas assez des conséquences sanitaires que ces arrestations ont parce qu'il y a supposément l'accusation de transmission volontaire du VIH. Je pense que les autorités, notamment le Conseil national de lutte contre le sida, a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là pour baisser la pression. Tout cet amalgame médiatique va affecter la prévention du VIH-sida, mais ce n'est pas assez. Il faut que ça aille plus loin parce que les questions de santé, c'est des questions de justice aussi. Et les questions de respect de dignité, du respect de la dignité, c'est aussi une question de justice.
Est-ce que c'est propre au Sénégal, cette répression, ou on peut dire que d'autres pays d'Afrique connaissent la même situation ?
Oui. Dernière en date, Mali et le Burkina Faso. Et puis en ce moment même, au Ghana, il y a un texte de loi un peu similaire. Donc c'est une tendance qui s'inscrit à la fois dans un rapport conflictuel avec l'Occident, des valeurs occidentales. C'est aussi un paravent, c'est aussi, il y a beaucoup d'instrumentalisation. Les questions homosexuelles, la diversion, la distraction vis-à-vis d'autres enjeux qui sont tout aussi importants sur l'éducation, sur l'accès à la santé, sur les infrastructures. Ces voix-là, on les a entendues au Ghana. On ne les a pas du tout entendues au Burkina Faso, on ne les a pas entendues au Mali, on ne les entend pas au Sénégal. On sent un petit frein lorsqu'il s'agit de parler d'homosexualité. Donc je pense que les contextes politiques aussi jouent beaucoup. Contexte d'ouverture, de contrôle ou pas. Donc on ne peut pas isoler la question homosexuelle, par exemple, des dynamiques d'ouverture ou de fermeture de l'espace public, de la liberté d'expression, d'organisation, d'association, autant de sujets.
Est-ce que vous voyez néanmoins une note positive à tout cela ?
On parle beaucoup de la criminalisation. Certes, c'est vrai, parce que ça met des vies en danger. Il y a des personnes qui se font attaquer et il y a même des corps qui sont exhumés et brûlés. Mais on parle peu aussi, on parle peu de la solidarité, de ce qui se joue aussi souvent autour de ces moments de très grosse sensibilité. J'ai par exemple reçu des mails des personnes qui souhaitent aider la communauté, des psychologues ou même d'autres défenseurs qui sont sénégalais, qui vivent au Sénégal, qui sont pas du tout de la communauté, mais qui estiment qu'il y a un acharnement qui est injuste et qui détourne des vrais sujets. Donc ça aussi, ça montre qu'il y a quand même des ouvertures possibles, y compris même lorsque voilà toutes les portes semblent fermées. On ne perd pas espoir sur le fait qu'il y a toujours des personnes qui se soucient de la dignité, qui se soucient du respect de notre humanité qu'on a en commun. C'est encore possible aujourd'hui.
Depuis 2021, le Sénégal n'est plus considéré comme un pays sûr par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en raison justement des risques liés à l'orientation sexuelle. Merci de nous suivre, merci d'être ouvert à l'actualité internationale.